Oh, Candy.
Bonsoir, comme vous le savez, avec des confrères journalistes, nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité pendant la semaine. Et pour ce soir, trois thèmes ont été retenus pour vous, à savoir la visite du président Burundi en RDC, qui invite les opérateurs économiques congolais à aller investir au Burundi. Deuxième thème de ce soir, c'est le rapport publié le week-end dernier par l'ONG International Crisis Group, qui dénonce l'enlèvement de la démocratie en RDC. Cette organisation estime que le chef de l'État concentre tout le pouvoir sur lui, au détriment de toutes ses autres institutions. Et enfin, notre dernier thème va porter sur la réaction du secrétaire général du MLC, François Mwamba, qui dément les accusations du gouvernement relatives à ce qu'il qualifie de participation intellectuelle des députés de l'opposition dans les derniers événements de Mbandaka. Pour en parler, je reçois dans cette émission Clément Zaou, il est directeur général de la radio TVS1, une radio privée. Et mettons à Kinshasa, bonsoir Clément.
Bonsoir Kelly.
La bonne de Jean Cassé, qui dément, il est journaliste indépendant et éditeur de la revue La Voix des Justes. Bonsoir, Boinerge Jean.
Bonsoir, Cité.
Et Fidèle Innocent Gounou Kamete, il est directeur provincial de l'Agence Congolaise de Presse, ACP Province Orientale. Il intervient à partir de la province orientale. Bonsoir, Fidèle Innocent.
Bonsoir, professeur.
Bienvenue à tous dans cette émission. Comme d'habitude, commençons notre émission par la revue de presse pour voir comment les journaux chinois ont analysé les thèmes que nous avons retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec Amy Kamoua.
Bonsoir. Deux sujets dans cette revue de presse que nous vous présentons. D'abord, la visite du président Burundi en RDC et la réaction du secrétaire général du MLC, François Mwamba, au sujet des accusations du gouvernement relatives à ce que ces derniers qualifient de participation intellectuelle des députés de l'opposition dans les derniers événements de Mbandaka. À propos de la visite du président burundais à Kinshasa, le potentiel estime que le rechauffement des relations entre Kinshasa et Bujumbura vient à point nommé, dans le sens où il marque ainsi le changement des rapports entre Burundi et la RDC. La référence plus, quant à elle, fait remarquer que cette visite a été programmée dans le cadre d'une tournée africaine tenue par le président burundais avant la tenue du congrès de son parti. Congrès prévu pour le mois de mai prochain, précise le journal. Pour le climat tempéré, cette visite a pour objectif notamment de rassurer les autorités congolaises au sujet du rapatriement volontaire des réfugiés, tant congolais que burundais. Concernant la réaction du secrétaire général du MLC, François Mwamba, au sujet des accusations du gouvernement relatif à ce que ces derniers qualifient de participation intellectuelle des députés de l'opposition, Forum des Axes note, je cite, attaque de Mbandaka, Mende accuse, François Mwamba riposte. Selon ce journal, le bureau politique du MLC précise qu'il est ni de près ni de loin mêlé aux événements de l'Équateur et dénonce toute tentative visant à l'impliquer. Pour sa part, le Phare, en rapport avec les propos du porte-parole du gouvernement, indique que ce qui est arrivé est dû à la banalisation par le gouvernement du mouvement des Ényélé à l'époque où ceux-ci avaient frappé Dongo en octobre 2009.
Merci Amy Kamoua pour ce journal de journaux. Clément Zaou, un petit commentaire par rapport à cette revue de presse.
Je pense que le trois thèmes tel que retenu pour un magazine de 50 minutes sont amplement suffisants. Je pense que ça a dominé l'actualité au cours de la semaine qui vient de s'achever. Je pense que ce sont les sujets majeurs. Il y en a eu d'autres, mais j'estime en âme et conscience que les choix étaient judicieux.
Bonheur de Jean Cassé, un petit commentaire aussi.
Non, je crois que le choix est par rapport à l'actualité. Et nous pensons que ce sont les piliers de l'actualité de la semaine. Il était opportun d'en discuter.
Merci bien, Innocent. Vous intervenez depuis la province orientale. Qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui dans votre province?
Au niveau de la province orientale, l'actualité, si je peux me résumer, c'est actuellement l'élection prochaine d'un poste de vice-gouverneur. Donc la personne qui doit remplacer le vice-gouverneur qui a démissionné, Joseph Mangatia, à ce poste-là. Donc ça, c'est pratiquement l'actualité. Aussi, l'arrivée au poste du président de l'Assemblée, du nouveau président de l'Assemblée provinciale de l'honorable Matsikini.
Premier terme de ce soir, en visite officielle à Kinshasa, le président burundais tend la main aux hommes d'affaires congolais pour investir dans son pays au motif, selon Pierre Nkurunziza, que le coût d'investissement le plus attrayant de la région s'est nettement amélioré. Pierre Nkurunziza était dans la capitale congolaise à la tête d'une délégation d'une dizaine de personnalités burundaises. Reportage de Berry Fontaine Lutsaka.
Selon le chef de l'État burundais, son pays connaît actuellement une amélioration de l'environnement économique. Il note par exemple que certains secteurs, notamment l'infrastructure, les télécommunications, les minerais, l'énergie, le tourisme et bien d'autres, ont besoin des nouveaux capitaux, estimant que la situation est meilleure.
Nous avons amélioré le cadre de l'État, notamment le cadre des investissements, qui a été refusé par le projet, que ce parc de l'État est le cadre des plus attrayants de la région. Aujourd'hui, nous disons que les grands temps, le changer pour tous, le développement pour les pays respectifs et le signal déjà très fort à l'emploi des investisseurs congolais qui veulent venir investir au Burundi, partout en Chine.
Pas de réaction du côté de la Fédération des entreprises du Congo, fait qu'en sigle. Cependant, certains opérateurs économiques congolais estiment que la RDC a plutôt besoin des investissements plus que le Burundi. Dans la soirée, lors d'un dîner offert au président burundais, Joseph Kabila a salué le renforcement de relations économiques et commerciales entre la RDC et le Burundi. Selon lui, la consolidation de la paix et la sécurité aux frontières des deux pays pourront favoriser le développement intégral des deux États. À cette occasion, le président burundais a adressé à son homologue congolais une invitation pour visiter prochainement le Burundi.
Merci Béli François Boutchaka. Clément Zaou, vous êtes directeur général de la radio TVS1, c'est une radio privée qui est née à Kinshasa. Qu'est-ce qu'on peut attendre des relations RDC au Burundi après cette visite du président burundais?
Je pense que c'est un problème d'abord de réchauffement de ces relations qui étaient tendues voilà plusieurs années. Et grâce aux efforts entrepris par les deux chefs d'État, les deux gouvernements et les deux parlements, je me rends compte que de plus en plus, on est en train de normaliser ces relations. Voir un président burundais sur le sol congolais, c'est déjà une bonne chose. Et l'invitation a été lancée au président congolais pour y aller. J'ai l'impression encore plus ces relations vont se normaliser, mieux il y aura la paix dans la frontière entre la République démocratique du Congo et le Burundi, le mieux il y aura encore des échanges entre le peuple congolais et le peuple burundais, notamment au niveau des frontières. Vous savez que nos frères qui vivent à l'Est préfèrent mieux écouler leurs marchandises dans les pays voisins plutôt que de les amener ici. C'est beaucoup plus proche d'aller au Burundi que de venir à Kinshasa pour venir écouler les marchandises. C'est beaucoup plus proche d'aller s'approvisionner au Burundi que de venir s'approvisionner à Kinshasa. Je pense que ces relations sont en train de se normaliser. Et le gagnant dans cette histoire, c'est la population congolaise.
Bonjour, Boinerge Kafeke. Vous êtes journaliste indépendant et éditeur de la revue La Voix du Peuple. La Voix de Justesse, excusez-moi. Vous êtes aussi d'avis qu'on peut attendre de cette visite la normalisation des relations entre la RDC et le Burundi, et que c'est le peuple congolais qui gagne dans tout ça, dans la normalisation des relations.
Merci beaucoup. En fait, disons que le chef de l'État burundais a bien choisi parmi ces États, parce qu'il n'a pas commencé chez nous, il vient de l'Afrique de l'Ouest, où il a visité certains pays, et il n'a pas voulu rentrer chez lui sans passer par le Congo, parce que le Congo est son voisin immédiat. Et vous savez que, d'ailleurs, nous, avec le Burundi, vous allez vous rappeler que les conflits, la froideur qui a régné entre nous et le Burundi, c'était derrière les deux pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda, pour ne pas les citer. Dans cette guerre qu'on avait, l'Ouganda, le Burundi était presque pris dans cette machine, dans ces trains-là, mais le Burundi n'a pas affiché ses griffes de guerre, ses griffes de déstabiliser directement comme ça les Congos, quoique il est composé avec les autres. Mais moi je crois que ça c'est un signal fort pour dire la paix est revenue, nous devons la consolider. Et je l'ai suivi, je demandais même que après l'ambassadeur à Kinshasa, il voudrait bien avoir un consul au niveau de Bukavu et partout du côté de l'Est, pour que
permettre la proximité de ces deux gouvernements. Donc, sur le plan politique, c'est un bon signal qui va apaiser. Et sur le plan économique, comme il a ouvert la porte aux investisseurs congolais pour aller chez lui, moi, je crois que c'est quelque chose de bon. Là où il y a la paix, il y a toujours des opportunités. L'argent a tout simplement peur de bottes, de bruit de guerre, de bruit de balles. Lorsqu'il n'y a plus de balles, lorsqu'il n'y a plus de guerre, je crois que les nôtres peuvent investir là-bas tant qu'il y aura beaucoup d'autres secteurs. Ça fait qu'il va consolider davantage nos relations et les bénéficiaires. Ça sera justement la population des deux côtés.
C'est bien Innocent Ngounou Kamete. Vous intervenez depuis la province orientale. Vous êtes directeur provincial de l'agence congolaise de presse. Le président burundais a dit que les opérateurs économiques congolais allaient investir au Burundi. On sait que dans notre pays, on connaît déjà un problème d'investissement. Comment est-ce que cela pourrait se passer?
Oui, je signe que moi, ce qui me concerne, c'est une bonne chose. Parce que lorsqu'on parle d'investisseurs, investissement de part et d'autre, c'est-à-dire l'appel à la paix, c'est déjà un signal fort pour la normalisation des relations entre les deux pays. Comme vous le savez pertinemment bien, que Burundi a été parmi les pays qui avait à un moment donné, à une époque donnée, identifié, connu de l'histoire, participer, si on peut le dire, on peut mettre un terme à l'agression de la République démocratique du Congo. Cette approche, c'est déjà un signal fort pour l'avenir d'une paix durable. Et cela aussi me pousse à croire que déjà, c'est comme un pas vers la reconstruction du CPG que nous avons vécu à un temps de l'histoire. Parce que lorsqu'il y a des investissements, personne ne voudra attaquer personne, c'est-à-dire un État va avoir des réserves pour pouvoir s'investir dans une attaque pour un motif donné. Et c'est que ce côté-là, il y a des investissements. Et comme de l'autre côté, si ça va renforcer encore davantage les relations. J'estime, pour ma modeste part, c'est une bonne chose. On va une avancée, comme on dit, rien n'est plus important que le dialogue, qu'on se mette ensemble pour pouvoir amener la paix. C'est pour raison.
Tout le monde, quand vous parlez des investissements, Jean Bonner, je pense que c'est une bonne chose. Notre ami de Kisangani aussi, Innocent, il pense aussi que c'est une bonne chose. Mais la SEC pense que c'est plutôt la RDC qui a besoin des investisseurs.
Non, je ne souscris pas à ce que dit la SEC. Il a fait que dit que c'est la RDC du Congo qui a beaucoup plus d'investisseurs que le Burundi.
Il y a beaucoup plus besoin
d'investisseurs. J'estime que si la SEC doit dire ça, on sait que la communauté économique des pays des États indépendants, la CPGN, ne va pas exister. Je pense que nous sommes dans un rendez-vous de donner et de recevoir. Ok, on ne peut pas attendre des autres qui nous donnent si nous n'apportons rien auprès d'eux. Le président de la République, Joseph Kabila, ira au Burundi pour aller visiter ce pays, sur l'invitation de son homologue. Certainement, il dira aussi au niveau du peuple burundais que voilà, venez chez nous, venez investir parce qu'il y a telles opportunités. Mais si aujourd'hui, les membres de la SEC disent qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller investir au Burundi parce qu'eux-mêmes sont limités, ben, je comprendrais. Mais je ne crois pas que ceux de la SEC qui sont à l'Est pourront dire qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller investir au Burundi. Parce qu'ils se sentiront d'ailleurs plus à l'aise d'aller investir dans les provinces burundaises parce qu'ils sont proches, plutôt que de venir investir à Kinshasa, à Matadi, au Katanga et qu'on sort. Je pense que nous sommes dans un monde du change. Personne ne peut aujourd'hui dire que toi, viens me donner, moi, je n'ai rien à te donner. C'est faux. Autant que nous avons besoin d'investisseurs burundais dans notre pays, autant les Burundais ont besoin de nos investisseurs. Et c'est à ce moment-là que la CPGL pourra découler. Si la CPGL décolle, c'est dit que quelque part, il y a des intérêts, des échanges à gauche à droite.
Vous pensez qu'elle n'a pas encore décollé, la CPGL?
Non. Politiquement, il y a déjà des bases qui sont jetées, tout ça, mais il y a un travail à faire. Et un travail, je pense que ce que dit la SEC, ça démontre qu'il y a quelque part encore une méfiance entre opérateurs économiques. C'est-à-dire que la SEC donne l'impression que le climat des affaires n'est pas encore suffisamment, malgré ce que le président a dit, assaini, tout ça là, et qu'aller investir au Burundi, peut-être que c'est un risque. Si la SEC dit ça, eh bien, la Fédération des entreprises burundaises dira aussi que venir investir en République du Congo, c'est un risque, parce que le climat des affaires, parce que la politique n'est pas. Moi, je pense qu'on doit briser ce cercle-là. Je pense que c'est un départ qui a été donné au plus haut sommet, il faut que les autres suivent.
Jean-Moignan, je veux casser que votre réaction par rapport à l'Afrique.
Ah oui, mais ma réaction n'est pas loin de Clément. Je veux dire que c'est aussi pour nous une assurance, un bouclier. Vous savez qu'on a toujours dit que la guerre est soutenue par les bailleurs de fonds, par les gens qui mettent de moyens. Et s'il y a des investisseurs burundais ou les gens qui apparaissent, enfin, qui travaillent pour les comptes des multinationaux, investis chez nous, c'est de chez nous, certains qui travaillent pour eux-mêmes, d'autres qui travaillent pour les multi, ils vont investir là-bas, ce sera une sécurité. Personne ne voudra déséquilibrer, déstabiliser un autre pays parce qu'il y a ses intérêts là-bas. Là où il y a ses intérêts, on protège. Moi, je crois qu'il n'y a pas de crainte possible et il n'y a même pas à dire que nous avons plus besoin parce que les secteurs sont diversifiés. Il y a des secteurs où au Burundi, ils sont plus avancés que nous avons besoin de leur expertise, mais il y a des secteurs où dans notre pays, nous sommes plus avancés et nous avons des investisseurs, des opérateurs économiques qui sont beaucoup plus stables et outillés dans ces domaines pour permettre à ce que nos frères du Burundi puissent bénéficier de leur expertise et pourquoi pas de leur argent pour employer aussi d'autres Burundais. Ainsi, ça va désengorger ces climats, ces fuites de cerveau, ces fuites de capacités de nos frères du Burundi ou ceux des Congolais qui veulent aller travailler là-bas. Chacun trouvera son compte là où il est. Je crois que la CPGL est en train de venir. C'est le groupement régional va mettre est en train de mettre les jalons. Demain, ça sera beaucoup plus visible et nous ne parlerons plus de la guerre dans notre région et ça pourra permettre le développement et pourquoi pas la grande stabilité des États de la région.
Fidèle Innocent, vous venez de suivre les points de vue de Clément Zaou et Boinerge Kasséke sur les propos de la FED par rapport aux investissements. Vous, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau?
Mais je dis qu'il y a la crainte, parce que, bien qu'il y ait une manière un peu voilée, mais il y a la crainte. Parce que moi, j'estime que l'Afrique n'a pas tellement à craindre, puisque là, ça donne bien, en fait, ça donne du tennis à l'Afrique. Hein, c'est-à-dire, ça fait voir aux yeux du monde que le Congo peut aussi donner. C'est-à-dire, hein, on s'est soustrait de la politique ridicule de mettre en ligne. Parce que lorsqu'on va investir là-bas, nous avons des hommes d'affaires qui se confinent, vous n'avez qu'à voir ce qu'ils sont tentés de faire sur le terrain, surtout au niveau de la province, hein, des provinces comme la province orientale. Nous avons des hommes d'affaires qui ont besoin d'investir aussi ailleurs, comme des investisseurs. Nous voulons peut venir aussi comme d'autres aussi. Parce que c'est une bonne chose, à partir du moment où je crois que les deux présidents se sont convenus, moi j'estime que là, ça va encore davantage renforcer les relations entre les deux pays, comme je l'avais dit. Et même s'il doit paraphraser Sarkozy lors de son dernier passage ici, en Congo démocratique, je crois que je l'avais dit, qu'on ne changera jamais les frontières, le Burundi restera là-bas, le Congo démocratique gardera toujours sa place. Et le Rwanda a sa place, c'est-à-dire nous avons. Elle est permise de voir, d'être toujours ensemble. Moi, je crois qu'il faut partir de quelque chose, à partir de moyens économiques. Les échanges économiques, ça va encore renforcer davantage. Or, les investissements amènent chaque chômage, amènent la vie.
Voilà, merci Fidèle Immonson Kamete. Dans un rapport publié le week-end dernier, l'ONG internationale Coalition Group dénonce l'enlisement de la démocratie en RDC. Cette organisation estime que le chef de l'État concentre tous les pouvoirs sur lui-même, au détriment de toutes les autres institutions. Vous avez compris, c'est notre deuxième thème de ce soir. Cette ONG estime que Kinshasa ne tient pas les promesses faites en 2006 en matière de démocratie. Explication de Guillaume Lacaille, analyste du Congo à Crisis Group. Il a été joint au téléphone depuis Nairobi au Kenya.
Depuis les élections de 2006, on a enregistré beaucoup de retard dans la mise en place des réformes institutionnelles qui étaient prévues par la Constitution. Et on a vu que cette vision démocratique qui avait été finalement le consensus congolais qui avait abouti à la Constitution, cette vision démocratique est un peu en train d'être oubliée. Nous étonnons du fait que le Premier ministre, qui est censé être le chef du gouvernement, se retrouve avec un pouvoir largement limité. Et d'une certaine manière, il est inquiétant de voir que des conseillers à la présidence arrivent à avoir davantage de pouvoir que des ministres en exercice. Et par exemple, surprenant de voir que toutes les affaires de sécurité dans l'Est ont été reprises par des conseillers de la présidence plutôt que par le ministère de la Défense ou le ministère des Affaires étrangères. Donc il est presque inquiétant de voir que tout le processus de décision politique qui était prévu par la Constitution de 2006 n'est pas le processus qui est appliqué, puisque à l'heure actuelle, c'est plutôt la présidence et les conseillers du président Kabila qui prennent des décisions à la place des ministres et des premiers ministres. Et si la démocratie n'est pas consolidée en 2010, alors on aura un vrai problème.
Jean Bonnerge Kasséké, comment vous analysez ce rapport de Crisis Group qui estime que le chef de l'État concentre tous les pouvoirs sur lui et au détriment de toutes les autres institutions du pays?
Bon, écoutez, ces ONG internationales des droits de l'homme, des CECI et des CELA, ils sont très forts en donneur des leçons, ils critiquent bien des choses, mais c'est rare de constater dans leurs rapports, ils donnent les avancées significatives de notre démarche vers la grande démocratie dans ces pays. Moi, je crois que dire ce qu'il vient de dire, j'ai parcouru son rapport comme ça en passant parce que je l'ai eu en retard, c'est manquer même du respect à l'endroit du Premier ministre et de tous les autres ministres. Parce que le Premier ministre, ce n'est pas un quelconque, c'est un monsieur qui a étudié, qui a un passé, qui a une personnalité et qui connaît son job description dans le gouvernement et dans les accords actuels. Et à partir du moment où un groupe d'analystes indépendants, ils peuvent l'être, commence à croire que le Premier ministre n'a rien, on lui a tout ravi, ben moi je crois que la culture de la démission exigerait au Premier ministre, s'il avait constaté cela, de démissionner carrément. Mais nous ne l'avons jamais vu faire des déclarations de nature à montrer son mécontentement par rapport à la façon dont il travaille. Nous n'avons pas vu le deuxième et le troisième pouvoir réclamer quoi que ce soit. Nous voyons les magistrats faire les grèves, nous voyons les cours des tribunaux travailler dans leur indépendance. Moi je crois que nous sommes dans une sorte, nous sommes dans ce qu'on appelle une procédure, un processus qui doit aboutir à quelque chose. Il ne faudrait pas qu'au jour d'aujourd'hui qu'on essaye de prêter, n'est-ce pas, les armes aux ennemis de notre démocratie en voulant présenter le Congo comme un pays où il y a totalitaire, où il y a une dictature quelque part. Moi, je crois que les efforts sont quand même en train d'être faits. On ne va pas interdire au chef de l'État d'utiliser ses conseillers quand même. On ne va pas interdire au chef de l'État d'utiliser un cabinet parallèle. Ça existe partout au monde. On ne va pas interdire à un ministre, à un
président. Un cabinet parallèle qui prend des décisions à la place du gouvernement?
Un cabinet parallèle est un cabinet qui travaille pour les comptes de son chef et lui donne des idées pour lui permettre d'équilibrer avec ceux qui sont officiels. Ça existe partout au monde et ils n'ont pas, n'est-ce pas, de preuves que ces cabinets parallèles supplantent les cabinets officiels. Si tel est le cas, moi, ministre officiellement nommé, et que je sens que mes décisions, moi qui gère au quotidien mon ministère, je sens que je suis empiété, je dois ouvrir ma bouche et les déclarer. À partir du moment où, juste la preuve du contraire, on n'a pas des ministres qui s'en plaignent dans leur façon de faire, je ne veux pas que quelqu'un puisse considérer mes ministres comme étant des ministres incompétents. J'imagine que c'est vrai qu'il y a des ratés, il y a des choses qui ne marchent pas encore, mais disent comme ça qu'ils ne sont pas à la hauteur, je crois que c'est trop fort pour ces ONG.
Et Monzao, vous avez sûrement parcouru ce rapport. Kinshasa ne tient pas les promesses faites en 2006. Le pouvoir du Premier ministre est limité. Votre réaction?
Je pense qu'il y a à boire et à manger dans ces dossiers d'International Crisis Group. Hein. De la même manière que j'ai salué le travail que cette ONG internationale fait, de la même manière que je m'inscris en faux sur un certain nombre de choses que la même organisation non gouvernementale avance, parce que j'ai l'impression, cette ONG n'a pas encore lu le décret qui organise les relations entre ministre et premier ministre et l'ordonnance du chef de l'État qui statue autour des rapports entre le président de la République et le premier ministre. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, j'ai toujours remarqué que les ONG internationales sont toujours poussées par le souci de rendre compte rendre compte des moyens mis à leur disposition pour justement se justifier. Qu'est-ce que vous avez fait du travail que vous avez donné? Très souvent, ils rendent des rapports de manière précipitée quand ils se fient à une ONG interne qui, elle aussi, mérite des cartons jaunes. Mais qu'est-ce qui se passe?
Vous aimez bien les cartons?
Oui, et qu'est-ce qui se passe? Ils parlent d'enlisement de la démocratie. Non, la démocratie ne s'enlise pas avec la démocratie du Congo. Les deux chambres du Parlement travaillent normalement. Je n'ai jamais vu l'institution présidente de la République aller à l'Assemblée nationale ou au Sénat dire que vous avez voté telle loi, je m'y oppose. Toutes les fois que le chef de l'État a renvoyé des projets de loi adoptés dans les deux chambres, c'est qu'il y a eu un problème et le chef de l'État a toujours sollicité le troisième pouvoir, qui est le cours des tribunaux, pour interpréter. Et lorsque le cours des tribunaux a interprété, ils ont donné leur arrêt, on renvoie les dossiers au niveau des deux chambres, et les deux chambres corrigent. On en a vu tout dernièrement, je pense au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale. Lorsque on parle des institutions qui devaient être mises en place, il parle peut-être de la décentralisation, les provinces qui devaient être administrées. Je pense que là, le responsable des institutions ont eu l'occasion de lui dire qu'il s'est posé un problème de moyens pour mettre en place ces institutions et que c'est l'une des raisons pour lesquelles ceux qui sont pour la révisitation de la loi fondamentale sont en train de pousser pour aller révisiter parce qu'au mois de mai, justement, c'est la limite. Hein. Puisqu'ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas été à même de réaliser la promesse faite dans la loi fondamentale, ils disent, avant qu'on arrive à terme, révisitons. Alors, ce qui se passe, c'est rendu que la concentration de tous les pouvoirs par les chefs de l'État.
Le pouvoir du Premier ministre limité?
Non, je ne vois pas le Premier ministre limité. Je n'ai jamais vu une décision prise en conseil des ministres, okay, par tous les ministres réunis, et qui a été annulée par une décision du chef de l'État. Je n'ai jamais vu. Parce que toutes les décisions du gouvernement sont prises en conseil des ministres. Chaque ministre apporte son dossier au conseil des ministres. Le ministre en délibère et donne un point de vue et nous suivons le compte-rendu. Je n'ai jamais vu. Aucune fois, une décision prise en conseil des ministres qui a été écartée. Je n'ai jamais vu une initiative prise par le Premier ministre et qui a été écartée par le chef de l'État. Mais je pense que là où on parle du conseiller du chef de l'État, qui ont beaucoup plus de pouvoir que les ministres, et ils décident. Je n'ai jamais vu un conseiller du chef de l'État décider. En fait, qu'est-ce qui se passe? Et je pense que c'est là où la responsabilité des médias est dégagée. Lorsqu'il y a une organisation de manifestation, le membre du gouvernement qui a la parcelle d'autorité autour de cette organisation, il va, je prends l'exemple du ministre des Infrastructures et des Travaux Publics, il va inaugurer ou lancer les travaux pour tel. Le média, qu'est-ce qu'il faut? Au lieu d'interroger le ministre, il faut aller interroger un conseil du chef de l'État. Mais lorsque vous donnez au conseil du chef de l'État l'opportunité de parler, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va vous prouver qu'il a la maîtrise de ces dossiers-là. Il va vous montrer qu'il maîtrise mieux que le ministre, parce que là où il est, ça ne suffit pas. Il voit loin. Lui aussi veut devenir ministre demain. Mais il va montrer à la face du monde, et beaucoup plus à la face de son chef, qu'il a la maîtrise de ce dossier. Il va parler comme si c'est lui qui a la maîtrise. Vous savez, l'abus de pouvoir au Congo, ça existe. Quand vous avez donné à quelqu'un une partie d'autorité, eh bien, dites-vous qu'il ne va pas vous faire des cadeaux. Il va tout faire pour prouver à celui qui lui a donné cette partie d'autorité qu'il vaut la peine et qu'il vaut mieux. C'est ça aussi le problème. Je pense qu'il y a une catégorie de médias qui spécialise dans ce genre de choses. Le ministre de la Santé va lancer les travaux à l'hôpital des cinquantenaires. Au lieu d'interroger le ministre de la Santé pour savoir quelle est la capacité hôpital, combien de services on va y avoir, tout ça, on va interroger quelqu'un qui n'est pas médecin et qui a autre spécialité. Et bien, lui, il va commencer à débiter des choses et dans l'opinion, on va croire que celui-là est en train de parler au nom du chef. Et très souvent aussi, les collaborateurs du chef, tout ce qu'ils disent, ça ne vient pas du chef. Vous comprenez? Alors, il ne faut pas pour cela commencer à englober ces choses et pour le mettre sur le dos d'un individu, commencer à dire que non, c'est l'appui du pouvoir. Il y a des gens qui sont. En conclusion, il y a des gens qui sont spécialistes pour parler, il y a des gens qui sont spécialistes dans le travail. Bien faire avant de faire savoir. Il y a des autres qui font d'abord savoir avant de faire. C'est tout le problème.
Et donc, pour vous, cette ONG a tort, vous rejetez en bloc tout ce que cette ONG
non, je pense que je ne rejette pas en bloc. Voilà.
Il y a une part de vérité quand même.
Là où l'ONG pêche, hein, quand vous parcourez les rapports, nulle part on vous donne un exemple concret. Nulle part on a vu un ministre qui est allé se plaindre. Voici un cas typique de là où un conseil du chef de l'État a décidé en lieu et place du ministre. On n'a pas vu cet exemple. Quand on fait l'analyse des contenus, quand on fait l'analyse des discours, l'analyse des rapports, on doit s'établir sur des faits concrets. Voilà, s'il n'y a pas des faits concrets, il est difficile de généraliser. Moi, je veux qu'on soit généralisé tant qu'un ministre ne s'est jamais plaint, tant que le premier ministre ne s'est jamais plaint, tant que je n'ai jamais vu dans un seul journal qu'il y en a un tel, tel, tel. C'est ça le problème.
Merci Clément. Innocent, fidèle innocent, Kamete, directeur provincial de l'Agence congolaise de presse ACP Province Orientale. Votre réaction par rapport à ce rapport de Crisis Group, vous pensez que les institutions du pays fonctionnent librement?
Oui, à mon avis, bon, je pense que si nous pouvons regarder en profondeur ce qui se passe, nous dirons que les institutions fonctionnent librement. Moi, je crois qu'ici, cet objet fait allusion. Par exemple, au sein du chef de l'État. En fait, c'est une vision du chef de l'État. C'est le chef de l'État qui a été élu au niveau du souverain primaire. Il a établi sa vision de manifester par les cinq chantiers. Et puis, le gouvernement a le droit, à mon sens, d'appliquer ces cinq chantiers-là. C'est ça qui fait croire à cette ONG internationale qui a une consultation du pouvoir. Il n'y a pas de consultation du pouvoir puisque un conseiller, par exemple, du chef de l'État, n'a pas pouvoir direct pour des décisions. C'est lui qui est le collaborateur du chef de l'État en matière. Et le chef de l'État a le droit d'avoir le conseiller dans tous les domaines pour qu'il soit et suive de très près la marche de la République et en tant que garant de la République. Donc, sorti issu des souverains primaires, il a été élu, tu vois, comme moi aussi, je dois me rappeler de ce que le premier ministre à l'époque disait, il avait dit, il n'avait pas de programme à présenter, il n'avait pas gagné les élections. Il est dans la logique des cinq chantiers de celui qui a gagné les élections. Bon, alors, le rapport de cet objet international, en fait, il confisquait le pouvoir, confisquer la démocratie, mais tout le monde peut le dire. Moi, si je peux m'enfermer quelque part, je dis qu'on a confisqué. Mais il faut amener des preuves palpables. J'ai l'impression, comme m'a dit le conseil Clément, c'est quelque part, c'est comme si, il établit un rapport, il faut justifier l'argent qu'il nous avait tiré de quelque part. Pas de d'ailleurs. Mais alors, ce qui est dangereux aussi, les gens ne parlent que du côté noir. On dirait que rien n'y va en République démocratique. Donc on dirait qu'il n'y a rien, il va, donc on n'encourage même pas. Même les travaux qui sont en train de s'effectuer à niveau de qui ce soit. L'agrandissement des boulevards, des rives jusqu'à l'État, donc la vision de désenclaver la ville. Hein, et surtout la vision de désenclaver les provinces. Par exemple, hier, le problème c'était pour régler Mounia, c'était un petit un problème. Actuellement, on devait faire, dans le passé, on devait faire 4-5 semaines avant d'être fait. Actuellement, aujourd'hui, vous partez, vous quittez qui s'en allez, et le soir, vous êtes à Mounia. Tout ça, c'est des faits encourageants, il n'y a pas que négatif. Moi, j'estime que ces rapports ne se reposent pas sur des bases solides. Donc, à mon avis, ça donne l'impression que c'est comme il y a une invention, quelque part. Pour la confiscation du pouvoir, je n'ai jamais entendu que ce soit dit le premier ministre musique, ou comme a dit l'un des confrères. Le premier ministre, s'il trouve que dans le travail dans un environnement urbain, là où il est pratiquement isolé, et jamais je l'ai entendu qu'il se plaint. C'est-à-dire que je le vois plus à l'aise comme un poisson d'annonce.
Merci.
Dans ce prérogatif, donc vous sentez que quelque part, donc le pouvoir, par chaque composante, fait son travail comme ses doigts.
Merci, fidèle innocent. Nous devons passer à notre dernier thème, on n'a pas beaucoup de temps. Terminons notre débat de ce soir par la réaction du secrétaire général du MRC, François Mamba, qui dément les accusations du gouvernement relatives à ce qu'il qualifie de participation intellectuelle des députés de l'opposition dans les derniers événements de Mbandaka. Le MRC et l'opposition en général n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé dans cette ville, a déclaré François Mamba dans une interview exclusive accordée à Radio Okapi. Il dit ne pas être surpris par ces accusations qu'il considère comme une fuite en avant du gouvernement face, selon lui, à l'incapacité de l'exécutif à trouver des solutions aux vrais problèmes de la population. Le député national François Mamba est au micro de Jeff Ngoy.
qu'il s'agit d'une fuite en avant du gouvernement, il y a quelque chose finalement qui est inscrit dans la logique de la manière dont ce gouvernement travaille depuis 2006. Tout ce qui est en rapport avec les armes, ça n'a strictement et ne peut strictement rien à voir avec les MSC. Je voudrais, de ce point de vue, que les choses soient très claires. Il y a, de ce point de vue-là, je ne parle même pas d'un déficit, mais c'est une absence totale, pour ne pas dire une faillite totale de ce gouvernement, quant à son aptitude à pouvoir répondre aux aspirations de la population. Veulent-ils aujourd'hui tenter de masquer cet échec qui est là, qui est patent, hein, en voulant chercher de boucs émissaires, du genre, nous savons ce qui se passe en Mandaka, c'est commandité par des hommes politiques, ils sont tous à Kinshasa, c'est des élus, regardez par là, ça ne peut être que du MLC. Je demande la manière, une fois de plus, la plus catégorique que ce soit les MLC ou l'opposition d'une manière générale, je parle de l'opposition républicaine que nous constituons, notamment au niveau du Parlement, nous n'avons strictement rien à voir avec ces choses-là.
Cédric Innocent, vous êtes directeur provincial de l'Agence congolaise des presses ACP Province Argentin. Vous avez sûrement suivi le point des presses du ministre, du porte-parole du gouvernement central, Lambert Mende. Et là, c'est le secrétaire général du MLC, François Mamba, qui réagit par rapport aux accusations, selon lui, du gouvernement relatives à ce qu'il qualifie de participation intellectuelle des députés de l'opposition dans les derniers événements du Mandaka. Comment vous analysez cette réaction du MLC?
Non, mais la réaction du MLC, bon, c'est la réaction qui doit être forte, comme ça. Et nous, parmi les juges, ici, par exemple, le MLC, le dit n'est pas partie prenante, ça c'est une bonne chose, parce qu'on ne voudrait pas donc revivre les guerres, tous nous qui l'avons connu, les guerres de 6 jours, les guerres de 3 jours, les bombardements à la vedette, des armées étrangères ou la population innocente. Donc, lorsqu'on parle de la guerre, nous, ça nous fait frémir parce que nous l'avons vécu dans nos chairs, nous. Alors, maintenant, lorsqu'on parle de la partition intellectuelle, moi, je crois qu'il faut, nous devons d'abord commencer par là. La partition intellectuelle, ça veut dire quoi? Alors, c'est-à-dire, quelque part, on est là, peut-être on voit, comment c'est que cette organisation ne puisse pas, ou bien ce gouvernement ne puisse pas aboutir parce qu'il y a des élections qui pointent à l'horizon. Ça, c'est aussi notre hypothèse. Quand, c'est-à-dire, ici, on n'a pas parlé de la partition pratique, hein, on a parlé de la partition intellectuelle. Donc, quand, c'est-à-dire, le prof, bon, là aussi, également, il faut toujours parler avec toutes les réserves d'usage, mais une chose est vraie, c'est cette guerre aussi. Hein, ces troubles-là, ou les insurgés-là, ils doivent quelque part être soutenus, parce que sinon, bon, d'où leur viennent les armes qu'ils possèdent. Comment ils peuvent, comme ça, directement sortir et résister devant les forces de l'ordre? C'est-à-dire, quelque part, il y a la même loi qui les soutient. Et cette même loi, comme nous l'avons dit, on peut pas toujours impliquer les étrangers, c'est-à-dire, l'étranger, c'est l'étranger. L'étranger, c'est-à-dire, quelque part, il y a la complicité interne, parce qu'il n'y a pas une action externe sans complicité interne. Moi, je crois que, dans cette optique de fait, donc il y a un peu de vérité là-dessus. Mais quand on dit on cite hein, que l'opposition, je sais pas ma foi, bon là, c'est un problème que je parle avec beaucoup de réserve, une chose est vraie, que dans nos enseignements, dans les analyses qu'on fait des part et d'autre, je vois pas que la même politique est derrière les insurgés. Autrement dit, ces insurgés, pourquoi? Ils se réveillent dans ma tête parce qu'ils sont des élus, ils sont des députés. Pour bon, monsieur, ils ont des députés au niveau national. Ils vont se battre. Pourquoi? Parce que la guerre n'amène rien. La guerre n'amène que désolation, destruction, amène les différentes maladies, la contamination du virus SIDA, amène la déportation et amène le temps. Ça recule. Qu'est-ce que c'est que vous allez faire dans 10 ans? Ça fait des détruits cette journée. Ça n'y est pas bon. Donc, qu'est-ce que c'est la main politique est derrière? Ah, ça, selon mes analyses.
Voilà, merci Innocent et Sanité, Clément Osaou. Le gouvernement accuse certains députés. C'est vrai que le ministre Lambert Mende n'a pas cité les députés de l'opposition, mais ceux de l'opposition se sentent concernés directement. Comment vous expliquez ça?
Ben, écoutez, j'ai toujours salué, je commence par là, le travail qu'a Lambert Mende, ministre de la Communication et des Médias. Depuis que la mandature ici a commencé, je pense que c'est le tout premier ministre pour parler du gouvernement que je trouve disponible, que je trouve ouvert, prêt à réagir à toute éventualité, tout en son honneur. Il fait bien son travail. Mais je pense que par rapport à ses dernières déclarations, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu de la précipitation et de la provocation. Précipitation, pourquoi? Parce que autant le gouvernement, quand il est accusé, exige qu'on lui apporte des preuves,
Autant le gouvernement, quand il accuse, doit avoir des preuves, des allégations qu'il avance. Et ça veut dire quoi? Lorsque on a arrêté les députés provinciaux MLC de l'Équateur, il a été amené ici, tout le monde a dit, il est encore innocent, voilà, la justice de faire son travail. Mais laissons la justice faire son travail, c'est que je sache, il n'y a pas encore eu une seule décision, un seul arrêt rendu par rapport à ces dossiers-là. Il a été accusé d'auteur intellectuel de ce qui se passe avec les Agnellés. Le monsieur est encore entre les mains, soit de la justice, soit des services de renseignement, et jusque-là, il n'y a encore eu aucune décision, aucun arrêt rendu par rapport à ça. Il est donc précipité de commencer à dire que le monsieur est en intelligence avec les Agnellés, puisque ce n'est pas encore démontré. C'est de la même manière que quand on dit l'opposition, c'est vrai que les Agnellés ont de la pousse. Ça, ce n'est même pas à démontrer. Parce que dans leur rang, on a retrouvé des ex-éléments des forces armées zaïroises, on a retrouvé des ex-éléments démobilisés qui ont eu à servir dans l'AEC, l'armée à la libération du Congo. Ok, mais d'où viennent ces armes qui détenaient tout ça là? Parce qu'on a dit que ce sont des gens rodés. Mais c'est à ce niveau-là que le gouvernement doit faire son travail, à chercher l'information et la bonne, et non pas faire la fuite en avant. Effectivement, c'est une fuite en avant, commencer à dire non, c'est l'opposition. L'opposition, elle est vague, elle est plurielle. Hein. Honoré Mwanda à l'extérieur, c'est de l'opposition.
Il a parlé des députés nationaux.
Non, quand il parle des députés nationaux et provinciaux, mais quelles sont les preuves qu'il détient pour avancer ça? Et c'est là où je dis, est-ce qu'il est en train, dans la justice, pour qu'on lui donne l'information, pour venir lancer ça? Encore là aussi, il va être accusé hein, de marcher sous la plate-bande, justement. Ça. C'est sur ça, justement, le problème. D'International Crisis. Quand International Crisis Group va se saisir de cet exemple ici, il va dire que l'exécutif est en train de marcher sur la plate-bande du judiciaire. Ce sont des erreurs à éviter. Donc, tant que la justice ne s'est pas encore prononcée sur ce dossier, aucun ministre, fût-il le porte-parole du gouvernement, même le ministre de la Défense, même le ministre, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, personne la qualité d'avancer telle ou telle autre chose, sinon c'est l'opposition des députés. Il n'y a que la justice qui est habilitée. Et jusqu'alors, la justice n'a pas encore travaillé. La réaction de François Mamba est tout à fait fondée.
Merci, Clément Zao. La réaction de François Mamba est tout à fait fondée. C'est donc Clément Zao, votre réaction, et ça sera votre conclusion, parce que c'est la fin de l'émission.
Merci. Bon, écoutez, l'opposition est en train de voir là où il y a les erreurs du pouvoir pour pouvoir les récupérer. Moi, je crois que la déclaration de M. Mamba est tout à fait une interpellation normale pour une opposition. Et les ministres au pouvoir doivent faire attention. Lorsque tous les éléments ne sont pas encore réunis, il ne faudrait pas appeler la presse et faire déjà une déclaration qui risque de vous rattraper plus tard. Nous le voyons dans d'autres sous-dossiers. Même les Al-Qaïda, lorsqu'ils sont arrêtés et que tous les éléments sont réunis, on montre la personne, on montre les matériels qu'il avait et on dénonce aussi l'appartenance du groupe du monsieur. Donc chez nous, lorsque M. Lambert est arrivé, après quelques jours du 4 avril, il devait attendre de réunir tous les éléments qu'il fallait pour que même au besoin, citer les députés qui sont impliqués. Il ne faut pas jeter comme ça les députés. Et c'est qui ces députés-là? Et parce que c'est une question nationale, parce que c'est une question de l'intérêt suprême de la nation. On appellerait ça même une question de la sécurité nationale. On ne doit pas traîner. Ce sont des questions où on met. J'ai vu, on est en train de juger des gens en Bandaka. Qui sont-ils? Avec qui travaillent-ils? Il faut qu'on arrive à nous expliquer de fond en comble ces genres de dossiers. Et puis je m'oppose à ce que l'on dise ce sont les Agnellés. Les Agnellés, c'est une tribu, c'est un groupe ethnique. Est-ce que c'est vague? C'est tous. Ils ne sont pas tous. C'est un groupe de gens qu'on n'essaye pas de stigmatiser toute une tribu. Parce qu'il y a des brebis galaises au milieu d'eux.
Voilà. Merci, Bonnerge Kasséke. C'est la fin de cette émission. Merci à Alain Rung, Yannick Amoua et Martin Seboujangui qui nous ont aidés à préparer cette émission. La technique était assurée par Paul Badianerma. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bon suivi de programme sur la fréquence de la paix. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 12h30 dans Le Grand Témoin.
Thank you.